Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source l'Automobile Magazine 2023.
Les GG.
Restez donc surtout en piste Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avant-français ressortent le grand jeu, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Ce 13 janvier 2013, l'ambiance est tendue dans les salons de l'hôtel Four Seasons d'Austin, au Texas. C'est là que Lance Armstrong a donné rendez-vous à la reine du talk show américain, la célèbre Oprah Winfrey, pour une interview qui s'annonce explosive. Pendant que les techniciens s'affairent, le septuple vainqueur du Tour de France, visage fermé et mâchoire serrée, débarque dans le studio. Le champion, vénéré par toute l'Amérique, est conscient que les mots qu'il s'apprête à prononcer vont probablement changer sa vie.
Je veux juste que vous me répondiez par oui ou non. Oui ou non, avez-vous pris des produits dopants pour améliorer vos performances? Oui ou non, avez-vous pris de l'OPO? Oui ou non, avez-vous pris des produits interdits lors de chacune de vos 7 victoires dans le Tour de France? À votre avis, était-il humainement possible de gagner le Tour de France sans vous doper 7 fois d'affilée?
Et durant 2h30, le Texan passe à confesse, répondant aux 112 questions préparées par Oprah. Un acte de contrition douloureux pour Armstrong qui, en 14 ans de carrière, avait toujours nié jusque-là, avec force, les accusations dont il était l'objet. Mais cette fois-ci, acculé dans les cordes par les confessions de ses anciens équipiers et les enquêtes des instances américaines, le Texan ne peut plus tenir sa position. L'empire va s'écrouler. Un choc pour les Américains, fan absolu de cet athlète hors norme. Lui, le petit gars du Texas, élevé modestement par sa mère, parti de tout en bas, pour gagner les sommets du sport mondial. C'est en 1993, à Oslo, en Norvège, que le cycliste américain, formé à l'école du triathlon, marque les esprits pour la première fois. Ce jour-là, il s'empare du titre de champion du monde devant tous les cadors du peloton, à commencer par Miguel Indurain, battu par la fougue et la force des 22 ans du jeune coureur US.
Lance Armstrong qui va s'imposer, merveilleuse victoire. Il embrasse tout le monde, il embrasse la terre entière. Il est heureux, Lance Armstrong, quelle splendide victoire.
À 22 ans, Lance revêt le maillot arc-en-ciel, la fusée Armstrong est désormais sur orbite et l'Américain rêve en grand. Lui, le rouleur sprinter, se voit bien triompher sur toutes les classiques. Mais son année en arc-en-ciel ne va pas se dérouler comme prévu, non. Au sein d'un peloton qui découvre le PO, Armstrong, encore peu informé des effets stupéfiants de ce produit, va prendre tôle sur tôle. Après avoir gagné les championnats du monde en 93, j'ai passé toute l'année suivante, maillot arc-en-ciel sur le dos, à me faire botter les fesses dans chaque course. À l'époque, on bricolait déjà un peu, à faible niveau, avec des cortisones. Mais l'OPO, c'était d'un tout autre niveau. Les avantages de la performance étaient si grands qu'on est passé de l'essence ordinaire à un carburant de fusée. Et il a donc fallu que je prenne une décision. Sa décision est prise, il lui faut un carburant plus puissant et qui mieux que le sulfureux docteur Ferrari pour lui concocter un protocole. Lance demande alors à son ami, Eddie Merckx, de lui présenter le médecin italien, adepte des cocktails survitaminés. Les résultats ne se font pas attendre bien longtemps. Dès la saison suivante, Armstrong remporte une étape du Tour de France, puis la Classica San Sébastien, avant que la Flèche Wallonne ne s'offre à lui en 96. Il est désormais l'un des meilleurs coureurs du peloton, aidé en cela par la dynamite du Dottore. Mais soudain, fin 96, la dynamique se brise. Alerté par une douleur au bas-ventre, Armstrong décide, avec retard, de consulter un médecin qui ne va pas lui donner de bonnes nouvelles. Le mercredi de octobre, on m'a diagnostiqué un cancer des testicules. Le 3, j'ai été opéré à l'hôpital Saint-David où l'on a retiré la tumeur et l'opération a réussi. En termes de degré de ma maladie, la condition est considérée entre modérée et avancée. J'ai commencé hier mon premier jour de chimiothérapie. Armstrong fait face, mais le pronostic est inquiétant. Des métastases ont déjà atteint ses poumons et son cerveau. Les médecins sont plus que pessimistes. Lance, lui, va considérer sa maladie comme une épreuve à remporter. J'ai vu ma bataille contre le cancer comme une compétition. Soit tu gagnes, soit tu perds. Mais dans mon cas, si je perdais, je mourrais. Alors j'ai vécu avec cette sombre perspective et je m'en suis servi pour tout ce que je fais depuis. J'aime gagner. Mais plus que tout, je ne peux pas supporter l'idée de perdre parce que pour moi, ça équivaut à la mort. Cette bataille, Armstrong va la remporter. En quelques semaines, les tumeurs disparaissent et les cheveux repoussent, tout comme le moral du champion. Sa carrière peut redémarrer. La seule équipe qui s'intéresse alors à lui est une petite formation sponsorisée par la Poste américaine, une équipe dont Armstrong va décider de la composition en engageant de jeunes espoirs américains. Au printemps 98, le Texan, corps transformé et visage émacié, est de retour. Un comeback difficile dans un premier temps, dès la première étape de Paris-Nice, il abandonne et choisit de ne pas prendre part au Tour 98, celui du scandale de l'affaire Festina.
L'équipe Festina du Tour de France a compté de ce jour.
Mais en fin de saison, les jambes répondent enfin, elles vont faire parler la poudre. Quand je suis revenu à la fin de l'été 98, je me suis fait la promesse de finir chaque course que je débutais. Et j'ai commencé à gagner, à tout gagner. J'ai remporté le Tour du Luxembourg, une grande course en Allemagne, j'ai terminé quatrième du Tour d'Espagne. C'était la première fois que je faisais mes preuves dans une course de trois semaines. Ce fut une surprise pour tout le monde, et moi le premier. Délesté d'une dizaine de kilos, son corps répond mieux dans l'école, d'autant que dès les effets de la maladie estompée, Armstrong a repris sa cure de vitamines sanguines. Dès lors, il est prêt à se mesurer à la plus grande course au monde. Le 3 juillet 1999, il est au départ du prologue du Puy du Fou en Vendée, où il va réaliser une performance de dingue.
Ah, il est bien Armstrong, il est très bien, il va battre le temps, oui.
L'Américain, atteint d'un cancer il y a quelques années, est aujourd'hui revenu au plus haut niveau. En 8 minutes et 2 secondes, il a remporté le prologue ici au Puy du Fou et conquis le premier maillot jaune de sa vie.
La sensation c'est incroyable. Tous les problèmes avec moi, tous les stories, c'est incroyable.
Deux jours plus tard, il lâche sa précieuse tunique pour mieux la récupérer la semaine suivante à Metz lors du deuxième chrono. Mais c'est le lendemain qu'il épate vraiment la galerie lors de l'étape de Sestrières où l'ancien rouleur sprinter se mue en grimpeur de génie.
Attaque d'Armstrong, ça c'est fort. Alors ça c'est fort. Quelle belle, belle page du tour là. Tout seul Armstrong, il n'a pas besoin d'équipier. Lance Armstrong a fait un numéro exceptionnel là.
Lance Armstrong comes across the line, winner today of the mountain stage of the Tour de France.
Ce jour-là, la salle de presse du Tour de France est partagée entre l'envie d'applaudir Armstrong à tout rompre et celle de le siffler. D'autant que quelques jours plus tard, le journal Le Monde révèle que des traces de corticoïdes ont été détectées chez l'Américain.
Depuis le début du Tour, l'Américain a été contrôlé à 10 reprises. Officiellement, tous les résultats sont négatifs. Mais selon Le Monde, paru aujourd'hui, des traces de corticoïdes ont été décelées lors du contrôle antidopage effectué à l'issue de la première étape. Vous confirmez que vous n'avez pas pris de médicaments depuis 1996? C'est la vérité. Vous n'avez pas pris de corticoïdes non plus durant cette période? Je vous le répète, c'est la première fois que j'en entends parler.
Une information que le Texan apprend de la bouche même du président de l'Union cycliste internationale, Hein Verbruggen. C'est apparu dans le test et Verbruggen est venu me dire « Tu dois nous expliquer pourquoi c'est dans ton corps ». Alors les gars ont regardé sur internet à la recherche de ce type de cortico et ils ont trouvé une correspondance avec une crème. Du coup, on a dit que c'était pour soigner une plaie de sel. Pour l'Union cycliste internationale, encore traumatisée par l'affaire Festina, hors de question qu'un nouveau séisme vienne entacher le cyclisme. D'autant qu'avec Armstrong, elle tient là l'homme capable de faire du vélo un sport à dimension internationale. L'histoire est trop belle, une ordonnance antidatée est donc fournie à l'UCI et l'affaire enterrée. Cinq jours plus tard, le Texan, emmené par sa garde bleue, fait une entrée triomphale sur les Champs-Élysées. Le Tour devient sa propriété exclusive. Le soir même, George Bush, qui se prépare à entrer en campagne pour la présidence américaine, prend son téléphone pour féliciter son compatriote texan. Félicitations mon ami, au nom de nous tous au Texas et en Amérique, on est très fiers de toi. Bush et ses compatriotes rayonnent de fierté et de bonheur et ils ne sont pas les seuls. Les médias se précipitent sur le phénomène et les marques lui offrent des contrats en or. Le cyclisme a trouvé son héros, plus rien ne peut l'arrêter. Et durant 7 mois de juillet consécutifs, Armstrong va construire sa légende à coup d'échappée dans l'école, de chute évitée par miracle et de chrono écrasé. Un long règne débute.
Oh là là, c'est le monde à l'envers. Le grimpeur pur qui est distancé par le coureur complet.
Attaque de Lance Armstrong qui vient de lâcher peut-être irrémédiablement Jan Ullrich et Armstrong s'enfuit dans l'Alpe d'Huez. Accélération Armstrong. Armstrong parti pour aller chercher la victoire d'étape ici à la Mangis. Armstrong fidèle au rendez-vous. Voilà, c'est fait. Oh là là, oh là là, la chute de Beloki, chute de Beloki juste devant Armstrong. Armstrong qui est parti dans le terrain. Une image insensée. Insensé, Armstrong toujours sur son vélo comme un cyclocrossman. Il est passé de l'autre côté, il a traversé la route, il repart, c'est de la folie. Oh, chute d'Armstrong avec Mayo. Oui.
C'était un spectateur, je pensais qu'il a fait tomber Armstrong et Mayo. Et...
C'est fou, le Tour de France se joue ici. Armstrong qui chute dans cette montée avec Mayo qui est tombé, Ullrich qui a évité la chute.
C'est le maillot jaune en personne qui lance le sprint. Lance Armstrong qui va déborder Andrés Klonen peut-être. Il est vainqueur Lance Armstrong, son cinquième succès sur ce Tour de France. Oh, c'est extraordinaire.
Des succès, toujours plus incroyables, mais assortis au fil des années de rumeurs tenaces et d'une manière de faire qui dérange. En 2004, celui que l'on surnomme le parrain va même dépasser les bornes lorsqu'il condamne l'échappée de Filippo Simeoni, coupable, à ses yeux, d'avoir témoigné contre son mentor, le docteur Ferrari. Pour se venger, Armstrong rattrape l'Italien et lui tient ses propos terribles.
Il m'a dit « Tu as tout faux. Tu n'aurais pas dû dénoncer le docteur Ferrari et surtout pas moi. Pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai du temps, j'ai de l'argent et je peux te détruire quand je veux. »
Et de réintégrer le peloton avec ce geste digne d'un parrain mafieux lorsqu'il porte la main à sa bouche et fait mine de la fermer. Tout cela dans un grand sourire. Oui, Armstrong est un tyran qui écrase les courses, domine ses adversaires et les soumet à l'omerta. Alors au printemps 2005, lorsqu'il annonce que le tour suivant sera sa dernière course, personne ne pleure vraiment dans les chaumières. Au mois de juillet suivant, fidèle à ses habitudes, Armstrong triomphe sur la Grande Boucle pour la 7e fois, avant de s'adresser sur le podium des Champs-Élysées à ses détracteurs dont il pense ce jour-là être débarrassé à jamais. Je voudrais dire à ceux qui ne croient pas au cyclisme, aux cyniques et aux sceptiques, je suis désolé pour vous, désolé que vous ne rêviez pas en grand et que vous ne croyez pas aux miracles. Vive le Tour, pour toujours. Ce 24 juillet 2005, Armstrong, désormais retraité, est le plus grand champion que le Tour de France ait connu, plus fort que les Merckx, Sinot et tous les autres. Mais bientôt, par péché de vanité, il passera de héros à zéro, de plus grand champion à tricheur maximo, un véritable ascenseur pour l'échafaud. Au soir du 24 juillet 2005, triomphant et arrogant sur le podium des Champs-Élysées où il vient de remporter un 7e Tour de France, Lance Armstrong a des allures de maître du monde. Assis sur une fortune considérable, ami des riches et des présidents, compagnon d'une rockstar, le Texan va pouvoir goûter à une retraite dorée. Et il n'est pas du genre à cocooner dans sa villa de luxe, Lance. Non, à bord de son jet privé, il parcourt le monde, donnant ici une conférence, collectant là des millions de dollars pour sa fondation contre le cancer, ou visitant à la Maison Blanche son ami George Bush. Tout semble aller pour le mieux, pourtant, à l'horizon de gros nuages noirs se rapproche à grands pas. La première averse, Armstrong l'a subie quelques mois auparavant, lorsque deux journalistes, le français Pierre Ballester et le britannique David Walsh, font paraître en 2004 un livre intitulé « L.A. Confidential, les secrets de Lance Armstrong ». Un livre à charge contre l'Américain, dans lequel témoignent deux de ses proches, son ancienne masseuse Emma O'Reilly et Betsy Andreu, l'épouse de son ancien équipier Frankie. Betsy raconte notamment une visite rendue au Texan en 96 sur son lit d'hôpital, où il soigne son cancer.
On était allé lui rendre visite à l'hôpital. On était plusieurs dans sa chambre. Les médecins sont entrés et ils lui ont posé des questions. Ils lui ont demandé, entre autres, « Avez-vous déjà pris des produits dopants ?» Lance a répondu qu'il avait pris de l'EPO, des hormones de croissance, de la testostérone, des stéroïdes et de la cortisone. Frankie et moi en avons parlé après. Et Frankie a dit « Je ne savais pas qu'il prenait tous ces trucs. »
Des révélations qui incitent d'autres journalistes, dont Damien Rossio, à mener l'enquête. Le 23 août 2005, son journal L'Équipe titre en une « Le mensonge Armstrong » et d'apporter en page intérieure les preuves formelles que des traces de PO ont été retrouvées a posteriori dans ses urines en 1999.
Le quotidien sportif s'est procuré les numéros des prélèvements d'Armstrong et affirme, documents à l'appui, qu'ils correspondent pour 6 d'entre eux à des échantillons d'urine contenant de l'EPO. Une découverte impossible en 99 sur le Tour, car les méthodes de détection de l'EPO ne sont pas opérantes à cette époque. Une révélation tardive, mais qui, pour certains, suffit à abattre le mythe du septuple vainqueur du Tour. Sur son site internet ce matin, il nie en bloc les accusations de l'équipe. Cet article n'est rien d'autre que du journalisme de tabloïd, explique-t-il, avant de réaffirmer, comme à son habitude, « Je n'ai jamais pris de produit pour augmenter mes performances ».
Le bateau Armstrong gîte sérieusement, mais il reste pour le moment à flot. Tant qu'il se tient à l'écart du peloton, le Texan ne constitue pas une menace pour le cyclisme. Mais à l'automne 2008, Armstrong et son orgueil démesuré décident de conjurer le diable.
Je voulais simplement vous dire qu'après avoir parlé longuement avec mes enfants, ma famille et mes proches, j'ai décidé de revenir dans le peloton professionnel.
Un retour qui inquiète les dirigeants du cyclisme. Jean-Marie Leblanc, à l'époque patron du Tour de France, sort alors sa plus belle plume pour convaincre Armstrong de renoncer. Jean-Marie Leblanc m'a écrit et m'a conseillé de ne pas revenir. Leblanc était le plus emblématique patron de l'histoire du Tour. Il savait comment ça se passait. J'étais assommé en lisant ça et à ce moment-là, j'aurais dû juste prendre le téléphone, appeler tout le monde et dire « je vais pas le faire, je le sens pas ». Ça aurait été la chose la plus intelligente à faire. J'aurais eu 2 jours de presse négative, mais j'aurais tout esquivé, tout. Mais le Texan est trop orgueilleux et fait fi des mises en garde. Début 2009, le voilà donc de retour dans le peloton au sein de l'équipe Astana, avec comme coéquipier un jeune et talentueux espagnol nommé Alberto Contador, vainqueur du Tour 2 ans auparavant. Un coéquipier qu'Armstrong va tenter par tous les moyens de déboulonner durant le Tour, n'hésitant pas à monter des coups de bordure pour l'éliminer.
À 20 km de l'arrivée, le vent provoque une cassure dans le peloton. Le septuple vainqueur du Tour en profite pour se glisser judicieusement dans un groupe d'échappés. Il réussit à piéger son leader, l'Espagnol Alberto Contador. Le message est clair, Armstrong ne fera aucun cadeau à son coéquipier, Contador.
Et quelques jours plus tard, en direction de Verbier, El Pistolero fait parler ses talents de grimpeur. Armstrong comprend ce jour-là qu'à 38 ans, le rêve d'une 8e grande boucle s'éloigne à jamais.
Il est parti, Alberto Contador, favori numéro 1 du Tour, est parti pour devenir le nouveau maillot jaune du Tour de France. Lance Armstrong, Christian Van de Velde et Frank Schleck ne peuvent répondre. Et Alberto Contador dans Verbier s'envole. Le meilleur grimpeur du monde est parti. Alberto Contador va assommer le Tour de France.
L'année suivante, l'Américain tentera un dernier barreau d'honneur en montant sa propre équipe, sans Contador cette fois-ci, mais rien n'y fera. Il vivra même un dernier tour cauchemardesque, achevé à une indigne 23e place.
Je me demande si Lance Armstrong n'a pas été pris dans cette chute. Oui, l'Américain Lance Armstrong est tombé, il s'est relevé, il est déjà debout, il attend vraisemblablement une machine. Une fois de plus, cet Américain qui ne tombait jamais lors de ses 7 tours victorieux, eh bien retombe à nouveau.
Plus du Armstrong tout. Distancé, Lance Armstrong à l'arrière du peloton.
Une chute qui est tombée de l'équipe Scantel.
Devant Lance Armstrong, heureusement il n'est pas encore tombé.
Il est de nouveau dedans. Ah bah là il va être dégoûté, Lance évidemment.
Cette fois-ci c'en est bien fini. Du vélo en tout cas, car les ennuis, eux, ne font que débuter. Et le fauteur de troubles se nomme Floyd Landis, ancien équipier d'Armstrong, qui, à la différence de son compatriote, s'est fait prendre, lui, par la patrouille au lendemain de sa victoire éphémère dans le Tour 2006.
Bonsoir, c'est l'info du jour. Taux anormalement élevé de testostérone. Ça coup de tonnerre dans le monde du cyclisme, car le coureur incriminé, vous l'avez compris, n'est autre que Floyd Landis, le vainqueur du Tour de France. Pour l'Américain, les honneurs n'auront donc duré que quelques jours. C'est à la fois triste et surtout désespérant.
Suspendu durant 2 ans, Landis finit de purger sa peine au moment même où Armstrong et Brunel annoncent la création de Radio Shack. Alors, ni une ni deux, il tente sa chance. Le journaliste américain Reed Albergotti nous raconte la suite. Landis a contacté Brunel et lui a demandé « Puis-je avoir une place dans ton équipe ?» Brunel a répondu « Tu es toxique pour le cyclisme. Tu ne peux pas rejoindre notre équipe. Nous essayons de démontrer que notre équipe est propre et tu es un coureur condamné pour dopage. » Landis était furieux de cette hypocrisie. Johan Brunel parlant d'une équipe propre avec en vedette Armstrong. Mais quelle rigolade. Floyd connaissait bien sûr, connaissait toute la vérité. C'était difficile pour lui d'avaler ça. It was pretty tough for him to swallow that. Déprimé, abattu et surtout foudrage, Landis décide alors de vider son sac.
Avez-vous vu Lance prendre de l'EPO ?
Oui, absolument. J'en ai même reçu de sa part en 2003. C'était nécessaire parce que si vous vouliez faire une autotransfusion, vous deviez utiliser de l'EPO pour maintenir votre taux sanguin. Et c'était la routine. Que ça faisait partie du boulot, ouais, c'était une chose banale.
Interrogé sur ces accusations, Armstrong n'a pas tardé à riposter.
Ce mec, Landis, a changé de version tellement de fois. Comment lui faire confiance? Il n'a pas la moindre preuve. C'est sa parole contre la mienne. Moi, je suis crédible.
La crédibilité d'Armstrong pourtant part en lambeaux et ces nouvelles révélations vont entraîner une réaction en chaîne. Tour à tour, une enquête fédérale est ouverte, puis inexplicablement abandonnée, avant que l'USADA, l'agence américaine antidopage, et son patron, l'opiniâtre Travis Tygart, ne prennent le relais. Lui ne lâchera rien. Il fera même craquer tous les anciens équipiers d'Armstrong, même le très fidèle George Hincapie, contraint, sous une menace à peine voilée, de tout déballer.
Ils m'ont dit
coopérer et vous prendrez 6 mois. Et si vous ne coopérez pas, vous serez banni à vie. Quelques semaines plus tard, c'est armé d'un dossier à charge de plus de 1000 pages que Tygart se présente devant les médias.
Monsieur Tygart, quelle est la meilleure preuve que l'USADA a sur un Lance Armstrong dopé ?
Réellement, toutes les preuves que nous possédons sont convaincantes et accablantes. Nous avons des témoins et des révélations qui n'ont jamais été présentées avant. Désormais, nous avons des preuves formelles.
Des preuves que l'USADA transmet ensuite à l'UCI. Cette fois-ci, Pat McQuaid, le successeur de Verbruggen à la tête de la Fédération internationale, est contraint de lâcher Armstrong. L'UCI va bannir Lance Armstrong du cyclisme et lui retirer ses 7 titres du Tour de France. Lance Armstrong n'a plus sa place dans le cyclisme, il doit donc être effacé. J'ai été écœuré à la lecture du rapport de l'USADA. Une annonce qui fait boule de neige en quelques heures. Tous les soutiens d'Armstrong le lâchent, un à un. Trek, Oakley et surtout Nike, qui rompt le contrat avec son ancienne icône. Acculé, traqué, lâché et poursuivi par la justice, Armstrong estimera le coût financier de sa déchéance à 111 millions de dollars. Mais le pire pour le Texan, c'est lorsque Livestrong, sa fondation qu'il a créée et enrichie de près de 500 millions de dollars, le lâche à son tour. Pour Armstrong, c'est la trahison de trop. Le cas Livestrong m'a vraiment mis en colère. Si ça avait été moi, j'aurais dit « Ok, tu prends du recul, un recul indéterminé, mais tu restes le fondateur, le patron. J'ai travaillé si dur pour la fondation que ça a vraiment été une immense déception. » Dans ce monde merveilleux, chanté par un autre Armstrong, Lance, l'ancienne idole, devient un pestiféré à qui l'Amérique reproche non pas tant d'avoir triché, mais surtout d'avoir menti. Quant à la planète cyclisme, elle fait à partir de ce jour et à jamais du Texan le symbole même du dopage. Désormais, à l'évocation du nom de l'Américain, on se bouchera le nez et lorsqu'on parlera de lui, il faudra ensuite se laver la bouche au savon noir. Pendant que d'autres tricheurs avérés reprendront peu à peu leur place au sein du milieu, comme directeur sportif ou consultant, Armstrong, lui, restera banni et symbole du mal incarné. Une injustice pour certains, un juste retour des choses pour les autres. Après des années difficiles, Lance finira par se reconstruire avec l'espoir qu'un jour il soit absous de ses péchés, même s'il a du mal à y croire. Certains me pardonneront, oublieront, d'autres pas. À un moment donné, les gens diront « voilà ce qui s'est passé », ils jugeront par eux-mêmes. Je ne sais pas ce que les gens penseront dans 20 ou 50 ans. Le palmarès du Tour restera-t-il vierge sur ces 7 années? Je suppose que oui, mais je ne sais pas. Est-ce que les gens ne vont pas remettre les choses dans leur contexte et se dire « oui, il a remporté cette fois le Tour de France ». Une question qui démange et dérange les fous de vélo, oui, sans dopage, quasi généralisé à l'époque, le Texan serait-il devenu le plus grand champion que le Tour ait connu et non pas le plus grand tricheur? Une question qui restera éternellement sans réponse.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20.